Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un chercheur rennais décrypte le choix de certains parents de se tourner vers l'école privée, reportage chez les compagnons du devoir avant un week-end porte ouverte, il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un autre reportage cette fois à la maison du jeu vidéo qui vient d'inaugurer ses locaux ici à Rennes, et puis recommandation, un temps de mobilisation pour plus de sport à l'école. J'ai bien changé moi, bienvenue dans La Reine. Tous les jours, on commence l'émission d'information locale avec une info du jour, une parmi d'autres, hein, que je retiens dans la presse locale. Là, je m'arrête sur un article à retrouver sur France Info, publié hier jeudi 18 janvier. Moins de grève, meilleure chance, éducation à l'ancienne. Des parents expliquent pourquoi ils ont choisi l'enseignement privé pour leurs enfants. Ça, c'est le titre de l'article, signé Mathilde Goupil, et rédigé suite à la polémique née des propos de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra, qui, on le rappelle, hein, justifie son choix de mettre ses enfants dans le privé à cause, je cite, des paquets d'heures pas sérieusement remplacés. Eh bien, France Info est allée interroger d'autres parents qui ont fait le même choix, car en 2022, ce sont 17,6% des enfants qui étaient scolarisés en France dans des écoles privées sous contrat. En plus des témoignages, on lit l'éclairage de Pierre Merle. Il est sociologue et professeur émérite à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Bretagne. Pour lui, les absences, elles sont plutôt faciles à expliquer. Je le cite, il existe plus de postes vacants dans le public que dans le privé, car les conditions de travail y sont plus difficiles. Quand vous passez le concours pour devenir enseignant, vous êtes à peu près sûr de vous retrouver dans un établissement d'éducation prioritaire, avec des élèves en difficulté et loin de chez vous. Et de poursuivre. Or, plus les conditions de travail des enseignants sont difficiles, plus il y a d'arrêts maladie. À l'inverse, dans le privé, vous avez des élèves d'un meilleur niveau, puisque sélectionné, il l'explique un petit peu plus loin dans l'article, ça et une affectation souvent plus proche de votre lieu de vie. Fin de citation. L'image d'excellence vendue par les écoles privées aurait donc peu à voir avec le niveau de l'enseignement assuré, mais bien avec un tri à l'inscription, contrairement aux écoles publiques qui ont l'obligation d'accueillir tous les élèves. Et la Cour des comptes le confirme dans ce même papier. Si on enlève le facteur social, la performance des établissements est relativement proche dans le public et dans le privé sous contrat. Le détail des motivations des parents, puisqu'il y a aussi des questions d'entre-soi qui se jouent et parfois de praticité, tout ça, c'est à lire dans un article en ligne sur le site francetvinfo.fr. Allez, après cette info du jour, place au reportage du jour. Et on prend la direction du 2 rue Jules Verne à Rennes pour découvrir l'antenne rennaise des Compagnons du Devoir, un projet associatif ancien qui défend les métiers manuels et la formation professionnelle à travers 11 délégations régionales. Des portes ouvertes sont organisées deux fois par an au CFA de Rennes, centre de formation d'apprentis. Et l'un de ces deux temps, eh bien, c'est ce week-end, samedi 20 et dimanche 21 janvier. Pour plus d'infos, il y a une page Facebook dédiée et le site compagnons-du-devoir.com.
Vous avez vu la salle Gilbert ou pas?
Je crois que j'ai été venue lors de portes ouvertes. C'est là que ça se passe demain, non?
En partie, ouais. Là, c'est les ouvrages qui ont été réalisés par les jeunes à l'issue du Tour de France. C'est un travail de réception pour un menuisier.
Là, on a des œuvres qui ont été faites depuis combien de temps?
Il y a des ouvrages là, qui sont faits depuis 40, 50.
Bonjour à tous, je suis Robin Durand, je suis le prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir de Rennes. J'ai 24 ans, je suis originaire de Nîmes et je suis mécanicien de formation.
Il fait beau!
On se situe dans Rennes, on est à 2 rue Jules Verne. C'est un site où il y a à peu près 3-4 bâtiments, on a un atelier bois, une partie hébergement, restauration et des salles de cours.
Et dire donc qu'un grand changement s'annonce puisqu'il y a un déménagement de prévu, on peut en dire un mot?
Oui, simplement, il y a un projet pour l'année suivante. On n'a pas encore les dates exactes, mais on a un vœu, et puis le chantier est déjà bien lancé, de changer de maison de compagnon pour l'année prochaine, qui se situera sûrement à Bru.
On peut dire juste pourquoi, en quelques mots, expliquer.
En quelques mots, on a à vœu d'offrir un environnement qui soit le plus agréable pour nos jeunes. Et aujourd'hui, notre site est un peu vieillissant. Et voilà, donc on pourra avoir un site plus agréable.
Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, comment on explique ce que c'est les Compagnons du Devoir ? C'est d'abord un projet associatif ?
Oui, tout à fait. Oui, les Compagnons du Devoir, c'est une association qui a pour but que des jeunes puissent s'accomplir dans et par le métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Donc c'est au travers le voyage, au travers la vie en communauté. Donc c'est un parcours qui est engageant, mais on croit en cela.
Plutôt sur des métiers manuels, liés à l'artisanat, on peut le dire comme ça ?
Oui, on, principalement, ce sont des métiers qui sont effectivement manuels. On tourne autour de l'artisanat, donc du bâtiment, mais aussi de l'industrie, des matériaux souples, travail du cuir, du textile, et des métiers du goût, donc pâtissier, boulanger et d'autres.
On met de côté le Tour de France des Compagnons parce que c'est, on va dire, un dispositif bien spécifique. Mais pour parler de l'éventail des formations qui sont proposées, je crois que c'est 30 métiers auxquels vous formez. Est-ce qu'il y a des spécificités rennaises sur les formations qui sont proposées ?
Oui, à Rennes, on est un centre de formation où on propose une partie de ces formations-là. Donc on propose comme formation dans le métier du bâtiment avec maçon, couvreur, charpentier, menuisier, ébéniste, plombier, serrurier, métallier. Aussi dans l'industrie avec les chaudronniers, et voilà. Alors les jeunes, ils débutent avec l'apprentissage, donc leur est proposé une formation en alternance. Tous les jeunes qui sont chez les Compagnons du Devoir travaillent, ils ont une vie en entreprise, une vie en maison de compagnon, donc soit ils font le vœu d'être résidents dans une maison de compagnon, soit ils font le vœu d'être non-résidents, donc ils vivent alors par leurs propres moyens.
Mais et donc il y a l'alternance, ça c'est dès 16 ans, c'est ça ?
Voilà, c'est à partir de 15 ans, à partir post-collège qu'on peut rentrer chez Compagnons. Donc on peut rentrer chez Compagnons de 15 ans jusqu'à 25 ans. La durée, ça peut durer entre 2 ans pour un CAP, un bac pro ça va être en 3 ans. Et puis à l'issue de leur apprentissage, leur est proposé le Tour de France, qui est une volonté de continuer à progresser dans son métier, mais surtout voyager.
Le Tour de France, on passe donc par différents endroits, on y reste combien de temps à chaque fois ?
Alors le Tour de France, c'est un voyage qui peut durer entre 4 et 5 ans. Le jeune, il va changer de ville tous les ans ou tous les 6 mois, donc d'entreprise et de vie et de maison de compagnon.
Le coût de la formation, c'est comme ailleurs dans les autres CFA ?
Oui, c'est comme ailleurs dans d'autres CFA. Le jeune, quand il est résident dans une maison, il paye la restauration, il y a l'hébergement qui est mis en place, et puis voilà. Donc le jeune paye une pension, donc s'il est non-résident, il paye... une pension d'une centaine d'euros à la semaine, et puis s'il est résident, c'est de l'ordre de 600 euros tout compris. Accès aux ateliers, accès aux salles de cours, à la matière, et puis restauration midi et soir, le week-end, voilà.
Comment on peut décrire la dynamique chez les Compagnons du Devoir de Rennes ? Est-ce que les effectifs sont stables ? Est-ce qu'il y a peut-être un regain d'intérêt pour les métiers manuels ? On sait qu'il y a, après la crise sanitaire, des jeunes qui se sont posés la question de ce qu'ils faisaient, remettant parfois en question les études qu'ils avaient suivies pour revenir vers des métiers manuels.
Effectivement, il y a quand même, depuis quelques années, une volonté d'apprendre davantage dans les métiers manuels, surtout dans les métiers du bois. Aujourd'hui, on propose aussi de la formation pour adultes, donc de la reconversion professionnelle qui marche extrêmement bien, notamment en charpente et en menuiserie ici à Rennes. Puis après, voilà, dans les métiers surtout de menuiserie et de charpente, on a vraiment des sections qui sont pleines. Il y a toujours quand même des métiers en difficulté où on a encore du mal à remplir nos sections.
C'est lesquels ?
C'est surtout les métiers de métallier serrurier, de couvreur, encore ça va, encore couvreur, mais couvreur, chaudronnier, donc voilà, on cherche des jeunes dans ces domaines-là d'activité, où on a des entreprises qui cherchent du travail.
Ça représente combien de personnes chaque année qui sont chez les Compagnons du Devoir à travers l'éventail des formations, ceux qui sont là dans leur Tour de France, etc.
Ici à Rennes, on a juste dans la partie volet formation, on a 400 jeunes environ qu'on forme, 450 jeunes. Et sur la partie Tour de France, ici, des jeunes qui vivent dans la maison des Compagnons, ils sont 80. Il faut bien prendre en compte que Rennes, c'est la maison principale de Bretagne pour les jeunes qui font le Tour de France. Mais on a des maisons de compagnons un peu partout en Bretagne, notamment à Saint-Brieuc et à Brest. Avec des points de passage aussi, on appelle ça des campagnes, où on a des jeunes à Vannes, on a des jeunes à Saint-Malo et dans plein d'autres villes en Bretagne.
Et je crois que c'est ma dernière question, c'est de vous demander de votre parcours à vous, votre regard sur les Compagnons du Devoir, à quel moment vous avez décidé de vous y engager ?
Alors moi, je suis rentré chez les compagnons post-bac. Hein. J'ai passé un bac STI2D dans le sud de la France. Et puis, je voulais apprendre le métier de mécanicien. Je voulais voyager. Et j'ai mon papa qui est compagnon menuisier. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là très jeune. Donc, c'était quelque chose qui est venu tout naturellement à l'âge de 18 ans. Je suis rentré chez les compagnons donc à 18 ans. Et puis, dès les premières semaines, j'ai senti que c'est ça que je voulais faire. Et puis, mon parcours, mon voyage a duré 5 ans où j'ai changé de ville chaque année. En Allemagne, je suis allé aussi travailler. J'ai passé chaque année des formations. Et c'était une aventure qui était complètement folle. Enfin, j'ai adoré chaque année. Ça a été plein de rencontres et plein de remises en question qui m'ont fait grandir. Donc, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours et j'y crois beaucoup en cette formation.
L'esprit de communauté, puis le fait d'être mobile, de changer de lieu souvent, enfin, ça comporte aussi des difficultés pour les gens qui sont dans ce parcours-là ?
Oui, effectivement, c'est un parcours qui est engageant. C'est de la vie en communauté, donc vivre à plusieurs, c'est quelque chose qui demande pas mal d'engagement. Il faut savoir s'adapter aux autres, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, effectivement, changer de ville tous les ans, certains métiers tous les 6 mois, donc il faut savoir aussi prendre toutes ses affaires, aller s'installer ailleurs. Même si les jeunes, quand ils changent de ville, ils sont directement impliqués dans une autre communauté, ils ont une chambre qui les attend, ils n'ont pas à penser à la restauration, donc c'est quand même un environnement qui rend les choses beaucoup plus simples, le voyage beaucoup plus simple pour pouvoir changer de ville chaque année.
Là, historiquement, en fait, ici, il y avait l'atelier bois, et puis quand ça a été construit, le site, il y avait des ateliers pour tous les métiers le long, en fait, là où il y a les AGECO, et une dalle, et il y avait des ateliers vraiment tout le long pour tous les métiers. Puis après, il y a eu des constructions d'ateliers à Saint-Jacques, où maintenant, ils sont là-bas en centre de formation. Donc là, on est dans l'atelier bois, où c'est ici qu'on fait de la formation pour la menuiserie et l'ébénisterie.
Bonjour, alors je m'appelle Mathias Bouki, j'ai 23 ans. Je suis formateur en charpente chez les compagnons. Et ça fait un an que je fais ça là. Donc en fait, j'ai bientôt terminé mon tour de France. Il me reste encore un an et demi. Donc j'ai commencé à 15 ans en fait, à Nancy, en Lorraine. Donc mon apprentissage a démarré par le CAP pendant 2 ans. Et au terme de ce CAP, je suis parti donc sur le Tour de France. Je suis arrivé à Bayargues, dans ma première ville. Okay. Et donc j'ai tourné dans différentes villes tous les 6 mois. Je changeais de ville pendant 6 ans là.
Et ça se termine par une casquette de formateur.
Voilà. Quand on arrive sur la fin du Tour de France, qu'on réalise notre maquette pour devenir compagnon. Donc oui, j'ai fait mon travail de réception.
C'était quoi ?
C'était une flèche torse en lamellé collé.
Je visualise alors rien du tout.
Si vous voulez, c'est un clocher d'église à échelle réduite qui fait 1,20 m de haut, qui tourne sur lui-même. Et donc, ça crée des pièces courbes qui tournent. Ça se trouve à Marseille, dans la maison des compagnons. Voilà.
Okay.
Une fois qu'on est reçu compagnon, on doit pendant 3 ans mettre une autre casquette que l'homme de chantier. On doit devenir soit formateur, soit prévôt, soit compagnon itinérant. Donc en fait, ces 3 gâches, donc les gâches, c'est des tâches, entre guillemets, elles nous permettent d'évoluer humainement, bien sûr, professionnellement aussi. Et c'est surtout pour retransmettre aux plus jeunes, à tous ceux qui sont en formation, tout ce que nous, en fait, on a reçu sur notre Tour de France quand on était en formation. Et donc c'est une boucle de transmission qui ne s'arrête pas, quoi.
Vous vous sentez comment dans ce rôle-là ? C'est pas forcément une évidence d'être dans de la transmission et une forme d'enseignement.
Bah en fait, on nous apprend dès le début de notre Tour de France que on n'est pas obligé d'attendre de connaître beaucoup de choses pour transmettre. On peut déjà commencer à transmettre le peu qu'on sait quand on commence. Et en fait, à force de faire ça, on apprend un petit peu à transmettre aussi aux autres, quoi. Ce qui est difficile, c'est surtout, on ne travaille plus la matière, on ne travaille plus le bois, on travaille de l'humain. Donc en fait, c'est carrément une autre dimension. Donc faut apprendre la pédagogie. C'est plus juste de la transmission comme ça le soir en salle de cours. Ça ne dure pas 15 minutes, quoi. C'est toute la journée, toute l'année.
C'est un vrai métier.
C'est un vrai métier, quoi.
Vous êtes avec combien de classes et puis combien d'apprentis ?
Donc moi j'ai 3 classes. Je m'occupe des formations adultes, des reconversions professionnelles. Donc j'ai des CAP et des BP.
Là, vous préparez quoi? Je peux vous demander ce que vous faites? Vous préparez un cours? Ouais, vous êtes sur quoi?
Là, je suis en train de préparer un cours sur les calculs de charge. J'avais mes BP la semaine prochaine et je vais leur apprendre en fait à dimensionner leur charpente, dimensionner leur plancher en fonction des charges de neige, du vent.
Et ma dernière question, c'est de vous demander si vous venez vous-même dans votre milieu familial de gens qui étaient dans les métiers ou de la charpente, mais en tout cas dans des métiers manuels.
Pas du tout. Mon père est professeur de physique-chimie dans un collège et ma mère est infirmière. Il n'y a pas grand monde dans le bâtiment, dans ma famille. Donc non, je suis arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, dans le compagnonnage. Je suis arrivé aux portes ouvertes, en fait. C'était par curiosité, mon père m'avait conseillé d'y aller. Et en fait, c'est les charpentiers qui m'ont vendu du rêve aux journées portes ouvertes. Et j'avais envie de travailler le bois. Donc je trouvais que c'était un bon compromis. Je me suis mis interne dans une maison de compagnon pour commencer mon CAP. Là, je me suis senti quand même assez bien intégré parce qu'il y a un esprit de famille dans les maisons de compagnons, du fait que ce soit une communauté et qu'il y ait pas mal d'entraide. Donc en fait, plus les années passaient et plus le métier me plaisait. Donc au bout d'un moment, c'était une évidence, quoi.
D'y rester.
Ouais, d'y rester, d'aller jusqu'au bout du cursus, quoi. Donc je reste ici à Rennes encore un an et demi. Toujours en tant que maître de stage. Et ensuite, je m'installe à Morlaix, dans le Finistère. Et je compte vivre un morceau de ma vie dans le Finistère. Donc peut-être monter une entreprise plus tard aussi dans les parages.
Ok.
Voilà.
Mais toujours en restant compagnon.
On peut pas... c'est plus que dans le cœur, finalement. Une fois qu'on l'est, on peut pas ne plus l'être, en fait. C'est un engagement à vie, en fait.
C'est en diagonale, en gros, c'est... tu regardes... En gros, ton point de vue,
Maxime,
il va
recommencer.
Quoi.
C'est ça. En gros, tu dois être comme ça, donc tes pieds doivent être.
Mais n'importe quoi.
Mais c'est marqué au-dessus, je te jure.
Attends. Ça, là.
Tu vois la vie de.
Là, faut que ça soit comme ça.
Plateau, là. Ouais. Voilà, c'est bon. Moi, je m'appelle Lilian. Je suis en formation CAP menuisier fabricant. Et j'ai 16 ans.
Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire là en groupe? C'est quoi? C'est pas vraiment un temps de cours, c'est un temps qui est libre?
Oui, c'est ça. Bah là, on est en train de préparer le MAF, donc c'est un des meilleurs apprentis de France. Donc on a un sujet imposé et puis faut le réaliser dans un temps précis, quoi.
C'est quoi le sujet?
C'est une desserte de service. C'est pour les restaurants gastronomiques où on pose le fromage dessus.
Et vous devez rendre ça à quand?
Donc là, c'est début avril et le sujet il est tombé début novembre.
Ça se passe en groupe ou alors c'est individuel comme
non,
travail?
C'est individuel, mais du coup c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs. Donc là c'est à niveau régional, après départemental, et après ça va au national.
Et c'est quoi les étapes de fabrication? Là vous êtes sur la conception?
Ouais, là on a déjà fait avant ça tous les croquis à main levée pour regarder comment ça allait donner, quoi. Et là on fait du coup les épures, donc c'est on va dire un plan à plat à l'échelle 1.
Et vous utilisez quel bois?
Donc moi pour le plateau j'ai pris chêne et frêne. Et après j'ai pris du cyprès aussi pour parce que c'est quand même une essence locale. Du coup si je vais jusqu'à la France, au moins je ramène un truc local, quoi.
Comment est-ce que vous vous êtes orienté vers cette formation-là? C'était des métiers qui étaient peut-être déjà dans votre famille
Ouais c'est ça, mon arrière-grand-père pardon, il était menuisier. Et du coup avant qu'il parte il m'a donné tous ses outils. Du coup, j'ai un peu arrêté de ça et du coup, je me suis dit j'aimais bien le bois. Du coup, je suis lancé là-dedans, quoi.
Le Tour du France, ça commencera quand? C'est à quel âge?
On peut partir quand on veut. Après, il faut avoir, un diplôme avant. Donc là, je prépare le CAP et quand j'ai le CAP, après, je pars en septembre.
Et vous diriez que vous êtes fier, vous, d'être dans cette formation-là et de vous orienter vers ce métier?
Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est un chouette métier. Après, c'est de l'art. C'est de l'art, ce qu'on fait. Après, il y a d'autres métiers qui sont encore plus poussés, plus de précision et tout ça, comme l'ébénisterie et la marqueterie. Mais déjà, ce qu'on fait, c'est quand même pas mal.
D'ailleurs, on va la refaire après.
C'est juste là, l'épure que tu fais, là, c'est juste pour
tracer.
Je sais. Et après, tu referas l'épure pour...
Ouais, pour le gil, ça dépend si ils ont les périodes adéquates.
De 7. 10, 12 R. S. C'est bon. rêve. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peuvent repentir comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de sevrer les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En mater, faut que la juge et le commissaire. Tu sais. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Sauvage et le Zaïrois. Sauvage et l'Ivoirien. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens. Africain sauvage. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé. Ici le produit est tarifé. Et s'il y a problème mon gars, on va le clarifier. Au comique, on tout niait. Regarde si tout y est, cette année je vais tout plier. Obama une carotte. Nous a juste fait roupiller. Ah ouais. Pendant ce temps là en Afrique en train de tout piller. Je fais du bien et du mal. Mais le bien ils ont oublié. Je leur mets des coups de pression. En plus sans trop crier. Oyoki. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. J'écoute pas les actifs pareils et on m'a dit encore moins les soi-disant. Sauvage. J'incite pas à la violence mais Annick ta mère égale un mec en sang. Rien n'a changé pour toi l'esclavage c'était aboli. Comme dans tous les cartons t'aimes pas si t'es de la police. Sauvage. Famas, Kalash, 9mm, Uzi et P38. Les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Arrêt du cœur. Sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peuvent repentir comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de sevrant les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En mater, faut que la juge et le commissaire. Tu sais. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Sango. J'ai grandi dans la Zermi et je ne me suis jamais plaint. Moi, je m'en bats les reins. Ça ne me fait ni chaud ni froid de mettre du Philippe-Plein. Philippe-Plein. Tant que le réfrigérateur de la daronne est toujours plein. Toujours plein. Je ne trahirai jamais un vrai frère pour une choix. Je suis matin, midi et soir au refou. Je fais des sous pendant que tu jactes. Je me fais des sandwichs de gnou. Je bois de la limonade de chatte. Tu veux pas, y'en a qui veulent. Quand on trouve moi vite des feuilles. Quand des gros fiacs nous accueillent. Comme Fetty Wap, c'est un œil. Je rôde en ville comme un check. Toi t'as une tête appuyée de la schneck. On parle pas avec toi pour la crapi. Pouka vu une fois, Pouka va vie. Tu m'as vu moi ou Kadhafi. Y'a du produit dans mon réseau. Pitch si t'as faim, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux qui ligo presto. Pas besoin d'appeler, allo resto. Sango. Mon couplet viendra s'abattre sur toi comme la peine de mort. Sango. Tu te comportes comme si on t'avait conçu avec du sperme de porc. Puis j'arrête de mentir, je suis mignon que quand je dors. Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors. Arrêt du cœur. Sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peuvent repentir comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de sevrant les airs. Sango le dozo. Cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dozo. En mater, faut que la juge et le commissaire. Tu sais. Calage, 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 calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. RAS.
Arrêt du cœur par Carice et Calage criminel sur Canal B. Si on m'avait dit que je passerais du Carice dans mon émission, je n'y aurais pas cru. C'était le choix musical des apprentis que j'ai rencontrés chez les Compagnons du Devoir de Rennes. Un titre à retrouver sur l'album RAS, sorti en 2016. C'était la première mixtape du rappeur français Calage criminel que vous venez d'entendre dans l'Arène, l'émission d'info locale de Canal B. Vous pouvez l'écouter sur le 94.0, mais aussi sur canalb.fr. Et c'était une émission en plus de ça que vous pouvez suivre à travers une newsletter, le courrier de la Reine. Et vendredi, c'est jour de newsletter, alors il est encore temps de s'inscrire et de me le signaler par un simple email à l'adresse lucie@canalb.fr. On poursuit cette émission avec une rediffusion. « rediffusion d'un reportage diffusé la semaine dernière, jeudi 11 janvier, une visite de la nouvelle maison du jeu vidéo qui est installée tout près du métro Henri-Fréville à Rennes. Un projet rendu possible grâce au budget participatif de la ville de Rennes, 3e édition. Et alors dans cette maison, des associations et organisateurs d'événements ont de quoi se réunir au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, on trouve des bureaux occupés par des résidents plutôt professionnels, streamers ou encore créateurs. Aperçu du projet en compagnie de Basile Richer, le co-créateur de cette maison du jeu vidéo. Par ailleurs, pour plus d'infos, il y a un site internet à lamaisondujeuxvideo.com.
Est-ce que ça te va si on fait le tour du jardin déjà ?
De nuit.
De nuit, ouais.
Basile Richer, co-créateur du projet La Maison du Vidéo, fondateur du Pixel Club. Et là, aujourd'hui, je suis trésorier de La Maison du Vidéo.
Bah, en arrivant, t'as eu la réflexion de dire que c'était une maison qui ressemblait à une maison d'habitation. Et c'est le cas. C'est une petite maison castor, comme on a l'habitude de voir beaucoup au sud de Rennes. Donc, elle est devant nous. Il y a un rez-de-chaussée, un étage et un beau jardin, là, ici, avec deux grands chênes et un espace qui entoure toute la maison. On cultive beaucoup ce côté maison parce que en fait il y a le côté chaleureux qu'on a envie de cultiver autour du jeu vidéo. Donc c'est la maison du vidéo. Ici prennent place toutes les activités initiatives rennaises qui souhaitent venir et qui font des activités autour du jeu vidéo. C'est coordonné et orchestré par une association qui s'appelle la maison du vidéo. C'est un projet qui a plus de 7 ans. On a les clés depuis le printemps 2023, donc cette année. Et en fait, on avait juste la volonté de créer un lieu d'accueil justement pour les gens qui font des choses autour du jeu vidéo, un peu à l'instar du jardin moderne avec les musiques actuelles par exemple, un lieu de création et de diffusion, voilà. Donc là, on est sur le début de ce projet qui a pris place à Rennes.
Au numéro 2 ?
2, ouais, de la rue du sous-lieutenant Yves Berger.
Bon bah rentrons parce
ouais,
que
ça marche.
Ça peine. Là, on est dans le salon.
Voilà, c'est ça. Alors ici, en fait, avant, c'était, ça a toujours été un local associatif, mais c'était plus des bureaux. Enfin, ça avait une activité de médiation pour la ville de Rennes il y a quelques années encore. Et donc là, le bâtiment nous a été confié. On a fait quelques travaux d'aménagement avec l'aide de l'enveloppe du budget participatif de la ville de Rennes. C'est une initiative qui nous a permis d'avoir quelques fonds justement pour s'installer et prendre place ici dans cette maison. Et donc on a fait des travaux pour créer cet espace ici d'accueil au public et donc qui est assez grand, qui nous permet d'accueillir 15-20 personnes assez facilement. Et on a fait en sorte que ça reste quand même assez modulable. Là, à ce moment, il y a un membre des rankings rennais qui est en train d'aménager la salle justement, parce que d'ici quelques minutes, ils vont prendre place pour faire une session de jeu tout simplement. Et donc voilà, il y a cette petite cuisine là d'où je vous parle, qui est ouverte justement sur ce grand espace. Et ça permet de faire une petite buvette éventuellement pour les associations qui prennent place ici. Donc l'histoire de ce projet a commencé avec le Pixel Club il y a 7 ans justement, où en fait à l'époque on était parti du principe qu'on avait besoin d'une structure comme celle-ci à Rennes. Et on a écrit dans les statuts que l'objectif de l'association le Pixel Club c'était de faire ouvrir justement la maison du jeu vidéo. Mais on s'était dit à l'époque qu'il serait nécessaire de créer une deuxième association pour prendre la suite, parce que la mission est complètement différente. Donc c'est écrit dans les statuts du Pixel Club que le jour où la maison du vidéo est inaugurée, le Pixel Club disparaît. C'est ce qui s'est passé récemment. Voilà. Et donc ça permettait aussi, dès le début du projet, de faire un renouvellement des personnes qui s'occupent du projet pour que ce soit plus sain et de permettre de remettre les cartes sur table et puis choisir les bonnes personnes pour ça.
C'était quoi les besoins principaux identifiés pour lancer une maison du jeu vidéo, des associations qui étaient un peu en difficulté pour trouver des lieux où se réunir, des professionnels aussi?
Alors tout à fait. En fait, nous, l'association le Pixel Club, c'était le meilleur exemple de ce besoin à Rennes, parce qu'en fait, nous-mêmes, pour pouvoir faire des réunions ou se réunir, on était obligés d'aller soit dans des appartements, et parfois c'était pas du tout adapté, soit dans des cafés, et il suffisait que la musique soit trop forte ou des choses comme ça pour qu'on fasse mal les choses. Et là, du coup, des associations qui ont besoin d'un espace pour faire une réunion associative ou qui ont envie de monter une rencontre, ils peuvent le faire aujourd'hui facilement, parce que c'est notre mission, justement, c'est d'accueillir toutes les initiatives dans ce cadre.
Ensuite, il faut passer à l'étage.
Et à l'étage, ouais. Donc on a un étage qui est dédié à l'accueil de résidents, des résidentes. ce sont des bureaux individuels ou pas, il y a quelques bureaux collectifs. Et donc on a accueilli actuellement déjà une dizaine de résidents qui ont des activités diverses, donc il y a des développeurs, il y a un streamer qui fait du contenu autour du jeu vidéo là, qui est en train de tourner dans le bureau qu'on voit ici à gauche.
Zulfarak, mais on va pas à Zulfarak direct, on va aux Interlandes d'abord pour faire une quête et après, on va chercher le marteau de Ginta alors pour pouvoir le ramener à Zulfarak, et après à Zulfarak ça va débloquer un boss caché, enfin qui est plus un boss caché, hein, tout le monde le connaît, mais et on va pouvoir obtenir des loots supplémentaires. Vas-y, on va le faire. J'ai peur de mourir dessus.
Son nom c'est
Astral Azure.
Il y a des modélistes 3D, 2D, dessinateurs, illustrateurs. On a plusieurs activités, des sound designers aussi, pas mal de musique. Donc, ils prennent place et puis ils viennent en fonction de leur rythme, un jour ou deux ou tout constamment. Voilà, on a Nagi qui est là.
Bonjour. Et tous les bureaux sont occupés ou
Oui, voilà, tous les bureaux sont occupés. Alors, on a une place d'un résident permanent qui est à pourvoir. Et on a aussi deux places qui volontairement sont, on appelle ça du flex office, mais c'est en gros des bureaux tournants, c'est-à-dire si les gens ont besoin de bureaux très temporairement, salut Sylvain, des bureaux par exemple 2 heures par semaine, c'est un bureau où ils peuvent s'installer et puis ils reviennent un mois plus tard ou une semaine après pour des temps aussi courts, quoi.
Et donc il y a du monde tous les jours, on continue, parfois certains restent toute la nuit, des fois d'autres c'est le jour, enfin il y a une activité quasi constante.
Ah oui, donc c'est ouvert tout le temps.
Oui, ouais, c'est ça, c'est un local associatif, on est autonome, on a les clés.
Est-ce qu'on peut dire que Rennes est un territoire particulier sur les cultures vidéoludiques, jeux vidéo, que ce soit en termes d'association ou de création?
Alors à Rennes, il y a évidemment le Stunfest qui distingue vraiment le territoire par rapport au reste de la France. Le Stunfest est le festival qui va chercher un petit peu les cultures émergentes autour du jeu vidéo, les cultures alternatives. Donc voilà, effectivement, il y a une touche particulière à la rennaise, mais qui... Et pas très loin de l'esprit des transmusicales ou des choses qu'on a l'habitude de voir, ce côté un peu curieux qu'a la ville de Rennes. On va le retrouver ici grâce au Stunfest et puis on l'espère grâce à la maison du jeu vidéo dans le futur.
Pour le moment, il y a combien d'associations qui sont donc en convention avec la maison du jeu vidéo?
Alors, on a 6 associations. Certaines viennent toutes les semaines, d'autres non, plus temporairement. Il y a tout le système, l'écosystème rennais qui gravite autour de la jeu vidéo, qui a des besoins très temporaires, d'autres plus fréquents. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de structures qui ont au moins un pied dans la maison du jeu vidéo, qui viennent soit pour participer, soit pour se renseigner, se faire des rencontres, voilà.
On peut citer des noms et puis leurs particularités?
Alors, y a évidemment le Stunfest. On espère qu'ils s'impliqueront de plus en plus dans la maison du jeu vidéo, parce qu'ils sont légitimes pour ça. Enfin, le Stunfest avec l'association 3 Combo. Je pense aussi à Indie Collective, qui est une association qui organise, qui fait la promotion du jeu indépendant. Et ils organisent des game jams notamment. Donc ça, c'est des événements qui durent le temps d'un week-end et les gens créent un jeu vidéo en 48 heures avec un thème qui est révélé au début du week-end. Et les jeux sont terminés à la fin du week-end. Donc c'est très très chouette. Ils font beaucoup d'événements comme ça dans l'année, dont un ici au mois de juillet. Ça s'appelle la Barbecue Jam. Donc on fait barbecue et on crée des jeux vidéo en même temps. Donc il y a les Rankings Rennais qui sont en train de s'installer, qui font des jeux d'animation de jeux de combat. Il y a Smash Braze qui joue tous les dimanches ici. Donc c'est eux, ils font des sessions de jeux sur un seul et unique jeu. Il y a Jester Sprite, c'est une chorale qui chante des musiques de jeux vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on est super content parce que c'est à l'image du projet tel qu'on l'avait imaginé, c'est-à-dire une variété, enfin une diversité autour du jeu vidéo. Et surtout des rencontres et de l'humain derrière ça.
Là. Ah, c'est bon, et ça déco. Okay. C'est bon. Ouais, c'est beaucoup dans ce truc.
Alors, moi je suis Thomas Crespin, je suis vice-président de l'asso.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle, alors pour l'instant, les Rankings Rennais, c'est un nom plus ou moins temporaire. Là, on en a un qui n'a pas été encore annoncé, en gros, enfin présenté vraiment. C'était un peu pour qu'on se lance. Quoi. En fait, on a une nouvelle asso qui s'est en fait séparée de Twilight Combo, comme on vous en parlait tout à l'heure. En plus, en fait, reconcentrer un peu sur en gros, le jeu de combat précisément, de faire des trucs un peu à portée locale, ou du moins sur Rennes, quoi, sur autre jeu de combat, du coup, voilà.
Vous êtes combien dans l'association ?
En termes d'adhérents, je dirais qu'il y a 30, 40, 50, tout là.
Quelques dizaines.
En tout cas, quand on fait notre rendez-vous un peu mensuel dans une maison de quartier, alors pas ici du coup, on va être entre 30 et 50 personnes en gros qui vont venir, quoi. Et l'équipe vraiment associative va être autour d'une quinzaine, quoi, 10, 15.
Vos temps forts, c'est tous les mercredis ici ?
Donc, en gros, ouais, ici, tous les mercredis, on organise du coup une session, ça s'appelle Free Play. En gros, c'est voilà, les gens ils viennent, ils payent une petite participation pour que nous d'ailleurs puissions payer des frais de la maison, etc. Mais sinon, voilà, ils viennent et ils jouent à ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, sans pression, sans vraiment de compétition ni rien. C'est vraiment histoire de s'amuser, de s'améliorer, puis voilà, quoi, de passer un moment avec des gens.
Sur des jeux de combat, c'est ça ?
Ah, voilà, sur des jeux de combat. C'est ça qui est un peu particulier avec cette culture spécifique, cette niche dans le jeu vidéo, c'est qu'en gros, c'est une pratique qui a plus de, un peu de bouteilles dans le jeu vidéo. C'est assez vieux, hein, c'est un des premiers jeux compétitifs en opposition en fait, du jeu vidéo. Peut-être avec Street Fighter 2, ça parlera à des gens. Voilà. Et en gros, c'est-à-dire que du coup, ça remonte. Et du coup, il y a voilà, une certaine culture qui existe depuis un petit moment. Il y a toujours un peu voilà, cet esprit, cette culture voilà, de se rassembler, en fait, de venir. Du coup, vu que c'est des jeux en opposition, toujours quelqu'un.
C'est
un contre un, c'est un adversaire. Et du coup, bah, souvent, c'est toujours très sympathique d'être là, avec, côte à côte avec son adversaire, pouvoir discuter, dire ah, tiens, t'as fait ça, moi j'ai fait ça.
On peut citer d'autres jeux que
oui, bien
Street
sûr.
Fighter.
Alors, nous, du coup, maintenant, en ce moment, mais du coup, maintenant, là, nous, on propose, du coup, en gros, alors, du coup, Street Fighter, le dernier, donc le 6. Mais aussi le 3, donc Street Fighter 3.3, c'est une version qui est beaucoup prisée sur Rennes en particulier. Et après, du coup, on a aussi Guilty Gear Strive, King of Fighter 15, Tekken 7, bientôt le 8 qui va sortir bientôt. Alors après, en fait, on associe avec les gens l'opportunité en fait, de venir en fait, avec un jeu qui leur plaise à eux, que nous, on propose forcément directement, pour qu'ils le présentent, pour qu'ils jouent avec des gens qui ont aussi envie d'y jouer, etc. Voilà.
Et avant d'être à la maison du jeu vidéo, c'était justement difficile d'avoir un lieu fixe, peut-être ?
Mais un peu, c'est-à-dire qu'en fait, pour les gens de freeplay comme ça toutes les semaines, avant, on faisait ça, du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, on faisait ça, en gros, dans un bar gaming, le Warzone. C'était pas idéal, c'était pas non plus une catastrophe, hein, ça restait quand même un peu un lieu autour du jeu vidéo, mais c'est vrai que c'était pas non plus idéal. Là, on est quand même bien content d'être là maintenant. C'est un grand cadeau que vous nous a fait.
Et j'ai peut-être une dernière question. Ouais. De savoir, vous, depuis quand est-ce que le jeu vidéo est dans votre vie et ce qu'il vous apporte ?
Oula, alors moi, personnellement, le jeu vidéo, ça fait un moment qu'il est dans ma vie. J'ai commencé, en gros, c'est un peu mon frère. Souvent, c'est le grand frère qui fait découvrir. Puis après, j'ai continué à y jouer beaucoup, beaucoup trop. Mes parents, notamment, diront. Un peu tout le long de mon enfance, adolescence, scolarité. Et ce que ça m'a apporté, après, je dirais vraiment que c'était une fois arrivé du coup sur Rennes. À travers, en fait, j'ai un ami que j'avais découvert, rencontré justement d'ailleurs par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux jeux de combat précisément, que j'ai rencontré comme ça, que je suis devenu très ami avec lui, qui du coup, je suis arrivé en colloque du coup, sur Rennes, du coup, un peu avec lui, du coup, voilà. Et c'est aussi un peu lui du coup, qui m'a fait découvrir un peu, du coup, ce monde-là, de cette association. C'est vrai qu'il existe encore, mais voilà, que maintenant, on s'est séparés. Et du coup, ce que ça m'a apporté le plus, c'est vraiment ce côté très social. C'est vrai, ça m'a vraiment fait sortir un peu de ma bulle, quoi. Ça m'a fait rencontrer des gens qui sont maintenant mes amis et compagnie. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses ?
Bah, je dirais peut-être une touche sur le jeu de combat en lui-même. C'est vrai que ça fait un peu peur, ça fait toujours un peu voilà, c'est violent, ça reste des jeux vidéo. C'est une pratique quand même qui faut un peu se détacher voilà de l'aspect du forme et plus ce qui est très intense c'est quand même le fond. C'est une analogie qui est souvent faite, qui est un peu facile, peut-être qu'un peu désuète, c'est quand même un peu du jeu d'échecs en temps réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux sur l'esprit, sur les. Du coup, forcément, vu que c'est en temps réel, il y a aussi avoir du coup de la dextérité et de la réaction.
Donc mental et rapidité.
Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des clichés qui vous énervent sur le monde des jeux vidéo et que vous avez à cœur de, je sais pas, démonter avec un projet associatif comme celui-ci ?
Eh bien, alors oui, forcément, en fait, il y a des discours assez faciles, les clichés, hein, et puis tout le monde en a conscience sur l'impact des jeux vidéo sur la société. Souvent, c'est la cible facile, en fait, pour détourner l'attention. Via la maison du jeu vidéo, je pense qu'on va plutôt pas essayer de faire de médiation autour de ça, mais plutôt montrer les bienfaits des jeux vidéo, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est capable de se réunir autour du jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose qui va nous isoler, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui peut ouvrir et créer des rencontres, et voilà. Donc on va essayer de faire on va faire en sorte de faire des belles choses pour que le jeu vidéo soit désacralisé et devienne un champ d'expression et un outil de lien communautaire.
Même si l'ouverture est assez récente, vous avez peut-être du coup un regard sur les publics qui viennent fréquenter cette maison du jeu vidéo. On sait que c'est encore difficile d'attirer un public féminin pour plusieurs raisons un peu presque sociologiques, notamment le fait de ne pas toujours se sentir en sécurité en ligne pour les joueuses. Il ressemble à quoi le public qui vient à la maison du jeu vidéo? Est-ce que c'est un de vos défis peut-être d'essayer de l'élargir hein?
Oui, tout à fait. Bonsoir. En fait, effectivement, enfin, là aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens qui viennent à la maison du vidéo sont majoritairement des hommes. Maintenant, enfin, nous, enfin, la porte est ouverte à tout le monde. Il y a des associations qui existent comme Women in Games, etc. Pour l'instant, on n'a pas de pont avec ces organisations, mais ce serait avec plaisir. Enfin, en tout cas, la porte est grande ouverte et on se battra pour que ce soit un endroit en mesure d'accueillir dignement tout le monde, enfin, avec respect et voilà. On a un site internet qui c'est lamaisondujeuxvideo.com, donc c'est facile à retenir. Dessus, vous serez vite orienté soit vers un formulaire par mail ou un serveur Discord. C'est un logiciel de communication très répandu dans le jeu vidéo, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre dessus. Et éventuellement exprimer des besoins si vous en avez. Si y a une initiative qui souhaite bénéficier de locaux faciles d'accès pour un besoin quelconque, on étudie toutes les demandes et on fait le maximum pour accueillir tout le monde.
Thank you.
Gâteau par la Chouchouka. Ce sont les ambassadeurs de la cumbia en Bretagne. Les cumbiasadeurs, m'a glissé mon collègue Yann. Je tiens à lui rendre hommage pour ce jeu de mots. Alors la Chouchouka fait de la musique depuis plus de 10 ans, emmenée par le chanteur colombien Juan Reyes. C'était une nouveauté musicale, ce morceau, qu'on retrouvera sur un album dont la sortie est prévue pour avril 2024. Vous écoutez La Reine sur Canal B. On le redit, ces émissions, elles sont à retrouver souvent le lendemain de la diffusion en ligne sur le site canalb.fr, un site où normalement tout est à peu près bien rangé et vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions réalisées par des salariés mais aussi par des bénévoles puisque nous sommes une association. Avant de se quitter, quand même, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois, en fin d'émission, des petits conseils de choses à se mettre dans les oreilles, à lire, à vivre, souvent près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce une joyeuse mobilisation pour samedi 20 janvier. Ravivons la flamme de l'EPS. C'est le nom de la matinée organisée par le SNEP FSU, le syndicat des enseignants d'éducation physique et sportive dans le second degré. Entre 10h et 13h30, ils vont mouiller le maillot pour exiger un héritage populaire des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 24 à rien que ça. D'abord, il y aura un duathlon, course et vélo, qui sera organisé au départ de la place de la République à Rennes, sur un parcours de 12 km avec des pauses réalisées sur des lieux symboliques. Puis de midi à 13h30, place à un rassemblement revendiqué festif, toujours place de la République, et on pourra y assister à des ateliers sportifs ou encore artistiques. On me promet du vin chaud, du chocolat chaud et de quoi manger. Et puis, ce sera surtout l'occasion de signer la pétition initiée par le syndicat. Je vous laisse avec un extrait de l'échange en compagnie de Samy Amrouni, le co-secrétaire du SNEP FSU en Ille-et-Vilaine. On l'avait reçu en octobre 2023 pour parler du Gymnascor. Et depuis, les revendications sont toujours les mêmes. 4 heures de PS jusqu'au bac, une éco-rénovation des équipements sportifs qui en ont bien besoin pour certains, et 1500 postes au CAPEPS, le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. En clair, il faut embaucher. Pour plus d'infos, il y a toujours le site snapfsu-rennes.net.
Nous, notre syndicat marche sur plusieurs jambes. On est sur le PEDA, on est sur les équipements, on est aussi sur les structures. On demande à ce qu'il y ait 4 heures de PS du primaire jusqu'à la fin du lycée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 4 heures en 6e, et puis après, ça y est, ça fond. C'est 3 heures, puis après, ça fond encore au lycée, 2 heures, alors qu'on sait pertinemment que c'est en grandissant que les élèves se détachent un petit peu de la pratique sportive. Donc 4 heures sur toute la scolarité, jusqu'à la fin du lycée, c'est une revendication pour nous qui permettrait de lutter contre la sédentarité.
Vous militez aussi pour qu'il y ait de plus de recrutement d'enseignants en éducation physique et sportive. Et juste là, avec cette place insuffisante du sport, c'est qui le public qu'on perd ? Est-ce que c'est d'un point de vue social et d'un point de vue du genre ? Je sais que les filles, justement, décrochent au moment du lycée. Je suis là pour en témoigner.
Eh bien, je confirme, malheureusement, même si dans les pratiques qu'on peut avoir en EPS et dans le sport scolaire, parce que j'y reviens, le sport scolaire, c'est une partie importante du métier de prof de PS. C'est une pratique volontaire, mais complémentaire à l'EPS. C'est moindre que dans les milieux fédéraux, mais quand même, on a une majorité de garçons qui pratiquent et une majorité, effectivement, de filles qui s'arrêtent par la suite. Et donc, pour lutter contre ça, on l'a dit, il faut des conditions correctes, il faut du temps. Et pour ça, il faut avoir des personnels formés et compétents. Et là, je parlais d'hypocrisie sur le financement de tout à l'heure. On a une hypocrisie puissance 10, avec un gouvernement qui crie sur tous les tons qu'il faut développer le sport et l'EPS à l'école. Le sport à l'école, c'est la mère des batailles, disait Amélie Oudéa-Castéra. Gabriel Attal disait l'EPS sera plus que jamais à l'honneur. Sauf que quand on prend les chiffres très concrets, depuis 2017, on a plus de 29 000 élèves en gros dans le second degré public et on a moins 1 201 profs d'EPS. Ça, c'est les chiffres du ministère. Donc on voit que concrètement, nous on le voit sur le terrain, à la rentrée 2023, là, il y avait, d'après notre enquête qu'on a menée en septembre, il y avait 2500 heures de PS qui n'étaient pas assurées. Ça, c'est la réalité. Donc dans les discours, on dit qu'on veut développer la place, nous, on, encore une fois, on veut des actes. On propose 1500 recrutements par an pendant 5 ans. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas le vivier, puisqu'il y a encore plus de 3 à 4 000 candidats qui passent le concours. Donc la solution, elle est simple. On recrute, on forme, on met des équipements de qualité et on met 4 heures de PS aux élèves jusqu'au lycée. Avec ça, je peux vous promettre que la situation elle s'améliore et qu'on arrive à donner le goût de la pratique physique et sportive à beaucoup plus d'élèves.
La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.